Bonsoir, Aude Lavigne. On vous retrouve demain pour un nouveau carnet de la création à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Jean-Max Collard se font face à notre affiche Picasso Sculpture au musée Picasso et Araki au musée Guimet. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'exposition du musée des Beaux-Arts de Lyon, Autoportrait, de Rembrandt au selfie, et l'exposition d'Iris Van Dongen à la galerie Bugada Carniel. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Le Fils de Joseph de Jane Green qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Enfin, nous avons rendez-vous avec la plasticienne Orlan qui est toute cette semaine l'invitée de La Dispute. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant au Musée National Picasso Paris pour y découvrir la nouvelle exposition Picasso.sculpture. Après le MoMA à New York, c'est donc à Paris que l'on peut voir cette exposition qui regroupe plus de 160 sculptures, dont environ 70 prêts, qui permettent de voir des ensembles très rares, comme les 6 verres d'absinthe de 1914, ou les 2 versions de la femme au jardin, qui étaient séparées depuis 1932, ou encore un grand ensemble de tôles peintes des années 50 et 60, certains doubles ou des variantes sont également présentées, qui permettront de voir l'importance de la sculpture chez Picasso. Le commissariat de cette exposition est assuré par Virginie Perdrizo, conservatrice chargée des sculptures au Musée National Picasso Paris. Elle avait été également co-commissaire de l'exposition présentée au MoMA et puis elle partage ce commissariat avec Cécile Godefroy, historienne de l'art. Jean-Max Collard, vous m'accorderez bien cette danse espagnole, Enrique Granados, pour entrer dans le musée Picasso ?
Ah, tout à fait.
Enfin, musée national Picasso Paris, hein, il faut le dire comme ça maintenant.
Hola !
Mais c'est le titre ? Oh, qué tal ? William et tout ?
Bene.
Bene,
non,
ça c'est l'italien.
Non, moi
ça.
Je parle pas espagnol deux secondes, donc.
Muy voilà, bien.
Ça s'est déjà arrêté. Alors, Picasso sculpture. Eh bien, écoutez. Bon, on pourrait faire la fine bouche en disant qu'on avait vu la grande exposition Picasso sculpteur, voilà, au Centre Pompidou, il n'y a pas si longtemps que ça, une dizaine d'années. Mais en tout cas, là, ça refait, hein, je dirais, ce vaste parcours de la sculpture de Picasso. Et parce que c'est une pratique constante, parce que ça fait partie, je dirais, du caractère prolixe et prolifique de Picasso, parce que comme il disait, c'est pas une question de recherche, hein, il disait je ne cherche pas, je trouve, donc c'est évidemment un quand même un laboratoire des formes qui se continue, et l'exposition a un fil comme ça, chronologique, hein, depuis les premiers bois de 1906 jusqu'à des réalisations qui allaient vers le plus monumental à la fin de sa vie. Alors du coup, dans ce tracé chronologique, évidemment, il faut évidemment comprendre que, on le sait tous, que Picasso est un génie multipiste. Alors, on peut suivre évidemment quelques-unes de ces pistes. Alors, par exemple, c'est la question de l'objet. qui est assez intéressant parce que l'objet est parfois figuré par la sculpture, il peut être lui-même l'objet de la sculpture, et je pense notamment au petit verre d'absinthe qui a un moment tout à fait incroyable dans les années 1912 de ce verre d'absinthe que Picasso va comme ça à la fois décomposer, recomposer, restructurer, et on voit bien toute la démarche qui existe à ce moment-là entre la sculpture et l'aventure cubiste. On est là dans un tout petit objet, mais au cœur d'une immense aventure dans l'histoire de l'art. C'est quelque chose d'absolument formidable. Il y a aussi juste avant une toute petite pomme sculptée qui date, je ne sais plus, de 1907 ou 1909. Excusez-moi si je n'ai pas le catalogue sous les yeux. Je ne suis pas Werner Spitz. Voilà, 1909.
Donc, nous avons quasiment Werner Spitz ici avec
voilà,
Grando.
Voilà, c'est exact. Werner
Grando.
Et donc, cette petite pomme sculptée de manière cubiste qui sort de Cézanne et puis qui arrive comme ça dans l'espace sculpté, c'est vraiment des objets absolument magnifiques. Et alors, en voyant le verre d'absinthe, et enfin les verres d'absinthe, puisque c'est comme ça toute une série d'essais, je pensais à un moment donné deux choses, parce qu'il y en a un, qui est peint et qui est un peu tacheté, ou qui est fait de pointillés, et ça fait penser à Liechtenstein, aux sculptures futures de Roy Liechtenstein. Et puis quand on voit le verre d'absinthe, moi je pensais même à Guéry, quoi. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression que toutes ces tôles un peu découpées, un peu pliées, etc., eh bien, c'est la maquette de futures architectures contemporaines. Donc bon, voilà, on peut dire qu'il y a cette relation à l'objet, parce que l'objet, on va le retrouver, il va s'en servir, parfois il va noyer des objets dans le plâtre, pour composer, par exemple, cette figure de la Guenon, dont la tête est constituée comme ça de voitures pour enfants, qui va mélanger à tout ça. Donc voilà, c'est une aventure possible. Une autre aventure, évidemment, c'est la relation entre peinture et sculpture. Picasso disait lui-même que le meilleur commentaire d'une peinture, c'est une sculpture. Mais en réalité, ça ne se résout pas du tout à une question de commentaire, parce que parfois, justement, la peinture vient dessus, l'œuvre vient de la peinture, elle entretient un dialogue constant avec tout ça. Parfois, la sculpture elle-même est repeinte avec un travail sur les patines, sur les couleurs. Il y a toute une série, à un moment donné, de sculptures en tôle pliée, etc., qui sont vraiment très fortes pour ça. Bref, voilà, c'est la Picasso-mania qui continue.
Oui, qui continue bien. Ici, parce que les tôles peintes, effectivement, est-ce que ce sont des toiles, enfin, est-ce que c'est de la peinture ou est-ce que c'est de la sculpture? Enfin, il y a beaucoup de sections comme ça qui montrent bien qu'il n'y a pas une séparation des pratiques chez Picasso. Corinne Rondeau.
Non, il n'y a pas de séparation, mais en même temps, je trouve que vraiment l'exposition est d'une très grande classe, quoi, parce que il y a une très grande sobriété sur l'accrochage. Les salles sont pleines d'air, c'est-à-dire on peut circuler, elles sont bien faites. La première salle où il y a des photographies à Valoris, il est à la fois d'un côté à l'intérieur de son atelier, et de l'autre c'est le jardin où il y a des sculptures, et puis vous avez deux femmes enceintes qui se font face. C'est quand même l'ouverture, et c'est aussi l'idée que, voilà, quelque chose est tout le temps en train de croître chez Picasso. D'ailleurs, une photographie de lui dans son atelier, torse nu, dans la lumière du soleil, en noir et blanc, malgré tout. Et le tableau qui est derrière lui est aussi dans la salle. Donc il y a ce travail qui est fait là de sortir et de ressortir finalement et de revoir encore une fois. Et je trouve que vraiment l'exposition qui a été faite par Virginie Perdriseau et Cécile Godefroy a une justesse malgré le dispositif chronologique, comme l'a dit Jean-Max. Je dirais qu'au contraire, il y a quelque chose qui se révèle tout de même grâce à la sculpture, notamment par cette deuxième salle avec, comme l'a dit Jean-Max, cette petite pomme cubiste. Enfin, il y en a même deux. Ce sont des plâtres originaux. Il me semble qu'il y en a deux. Ensuite, il y a des femmes assises, des toutes petites. D'ailleurs, on lui avait demandé de faire des santons au tout début. C'est les premières qu'il fait. Et en fait, vous avez chaque fois le plâtre original, puis ensuite des variantes. Enfin, qui sont en fait pas du tout des variantes, parce que plus tard, d'ailleurs, Picasso dira, vous coulez, mais sans aucune rectification. Donc, ce qui est déjà original et originel ne doit pas être modifié dans la fonte du bronze, par exemple. Et on le voit d'ailleurs à plusieurs reprises. Donc en fait, ce qui est déjà dans cette première salle, notamment parce qu'on arrive avec des têtes de fous, et de l'autre côté, sur la même plateforme, le même grand socle, vous avez des têtes de femmes qui sont Fernande, qui sont en fait la même année que la femme au poire de 1909, qu'il fait en peinture, et qui est dans la partie cubiste, analytique, on va dire, puisque après, effectivement, on a une troisième salle qui va montrer toute l'influence du primitivisme et aussi de Cézanne, avec des bois sculptés et un paysage qui fait beaucoup penser à Cézanne. Et puis la quatrième salle, dans laquelle on doit repasser par les salles de Fernande, où là, effectivement, il y a d'autres choses qui se passent, notamment les verres d'absinthe de 1914, qui sont absolument le clou, absolument. Parce que il y a aussi une relecture sur le point de départ de Picasso, puisque c'est cubisme analytique, mais aussi primitivisme, Cézanne, impressionnisme, et aussi cubisme synthétique. On vous fait pas de cours de l'histoire de l'art. Et en même temps, il y a un déploiement. Et quand on pense effectivement qu'avec Braque, il a été quand même l'initiateur d'une peinture moderne qu'on a appelée le cubisme, dont on s'est posé la question de qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était voir de plusieurs angles l'objet lui-même, etc. Et que d'un coup, on est dans une exposition dans laquelle on est obligé de tourner autour des sculptures, et que l'ouverture du catalogue par les commissaires, c'est une citation que fait Picasso à Brassailles, et qui est l'axiome même du travail de Picasso toutes ces années de création. On ne peut vraiment suivre l'acte créateur qu'à travers la série de toutes variations. Eh bien, évidemment, c'est ça. Et toute l'exposition, en fait, c'est pas simplement la chronologie, c'est en fait de voir à chaque fois la variation entre le plâtre original, le travail original, la combinaison d'objets absolument bricolés. C'est un grand bricoleur, comme le dit Laurence Bertrand d'Orléans dans son texte, justement autour des verres d'absinthe. Et ce bricolage, finalement, qu'on va ensuite revoir dans la fonte du bronze, notamment, vous avez parlé du singe, mais il y a aussi la grue qui est absolument, il y a une patte qui est une fourchette, donc il y a ce bricolage. Mais comme l'a dit aussi Jean-Max de manière très judicieuse, dans un verre d'absinthe, on peut y trouver un pointillisme, ou alors une trame à la Liechtenstein, ou dans les tôles pliées, on peut y voir peut-être, voilà, cet agencement architectural à la Guérie, mais on peut aussi voir du constructivisme dans la salle d'Apollinaire, ces tiges comme ça, et puis avec rien du tout, un carnet de dessin de Picasso, où on voit en fait le travail de la ligne qui est un dessin à l'encre, et qui a quand même une autre qualité que la structure qu'on va voir dans l'espace. Donc je trouve qu'il y a une espèce d'amplitude avec peu de choses. Bon, il y a pas mal d'œuvres, bien sûr. Mais contrairement aux expositions qui veulent absolument démontrer qu'il y a du magistral, du virtuose, on le sait, c'est parfaitement assumé par les commissaires d'exposition. Et là, je trouve qu'on est dans un binaire noir et blanc. D'ailleurs, comme on peut le voir avec des choses qui ne sont jamais exposées, la femme au jardin, il y en a une qui est donc en tôle, en fer blanc, et l'autre qui est en bronze, il me semble. Et vous avez un noir et blanc, c'est au premier étage, dans la salle, dans une salle là où il y a ces lustres particuliers de Gonzalez, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, bref, donc vous voyez, je ne suis pas tout à fait Werner. Et cet endroit... Et cette sculpture, la femme au jardin, sont d'une beauté, d'une simplicité, et qui annonce déjà, pour part, ce que j'aime beaucoup moi chez Picasso, parce qu'il l'a fait en carton, en papier, ce sont les tôles pliées, ces femmes aux bras écartés qui vont devenir des sculptures monumentales qu'on peut avoir partout dans l'espace public. Donc cette manière de travailler avec la petite chose de la terre jusqu'au monument, la sculpture en l'espace public en ciment, voilà, qui trône ici ou là, de Stockholm à au prioré de je ne sais plus où. Enfin, moi, je trouve que cette exposition a une manière d'ouvrir en fait le rapport au regard et autour de cette pseudo-explication du cubisme, de voir sur toutes les faces. Et là, en fait, vous voyez l'œuvre de Picasso s'ouvrir peu à peu. Et d'ailleurs, il disait à propos des photographies que Brassailles faisait de ses œuvres, j'arrive à juger mes sculptures grâce à vos photos. Et Brassailles faisait en fait plusieurs angles, prises de vue de ses photos. Donc,
de ses sculptures.
Comme un espèce de miroir de plusieurs facettes du cubisme qui passe dans un médium photographique et qui d'un coup réouvre la question de la circulation autour des œuvres.
Et dire aussi que la prouesse, c'est d'avoir redéployé, mais dans un espace plus réduit, cette exposition. Moi, je n'ai pas eu la chance de la voir au MoMA, mais enfin, avec des salles de musée conçues pour, l'Hôtel Salé, c'est quand même pas tout à fait la même histoire. Et vous le disiez, Corinne Rondeau, ce qui est étonnant, c'est que c'est aéré, enfin il y a de l'espace, et heureusement, pour montrer les sculptures, mais c'était sans doute pas du tout simple à réaliser que de remontrer cette exposition dans un lieu qui n'est quand même pas si facile. Jean-Max Collard.
Oui, Corinne évoquait le primitivisme. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit, par exemple, l'exposition de Modigliani, qui est en ce moment au LAM à Villeneuve
d'Ascq. On en a parlé, effectivement, il y a deux semaines.
Puisqu'il y a cette dimension primitiviste très forte.
Ce qu'il y a de mieux, nous l'avons dit.
Pour Brancusi. Et en même temps, on sait que Modigliani avait dit de Picasso quel génie, et on comprend pourquoi il a arrêté la sculpture, au fond.
Non, pas
pour raison de santé, en réalité, parce qu'entre Brancusi et Picasso, quelque part...
Il n'y a pas beaucoup de place.
Oui. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de place, et que les cariatides dans lesquelles se lançait Modigliani, et bon, bah, quand on voit évidemment à la fois le fait que Picasso le fait, mais qu'il fait aussi tout autre chose, bon, ben, évidemment, il y avait peut-être pour certains de quoi être parfois un peu désespéré.
Ouais,
quoi.
Il n'y avait mais pas de, beaucoup plus de place côté, en peinture à l'époque,
et de
hein,
l'autre
quand même.
Et de l'autre côté, quand vous avez dans le jardin cette sculpture qu'a évoquée Corinne, qui est une sculpture vraiment graphique, qui est juste, sont des lignes complètement évidées. D'ailleurs, ça dialogue avec le monument pour Apollinaire, qui était l'idée d'une profonde statue en rien. Bon, alors, du coup, là, on retrouve vraiment quelque chose de complètement évidé, tout le contraire de ce qu'on peut voir avec d'autres sculptures de Picasso. Et là, vraiment, c'est effectivement quelque chose d'hyper graphique, de filiforme, de longiligne, de complètement épuré, de complètement vide. Et là, ça envoie une autre claque, à mon avis, du côté de Barcello, qui a aussi d'autres sculptures dans le jardin et qui lui est dans la matière, dans le gestuel, dans une inventivité certes, mais que moi je trouve pas du tout passionnante, même si Barcello est considéré aujourd'hui comme un très très grand artiste. Moi ça m'intéresse absolument pas. Je ne crois pas d'ailleurs à cette africanité de 6 mois sur 12 passé en Afrique et puis le reste du temps à Palma de Mallorca ou à New York comme une sorte de Rimbaud en Abyssinie. Moi ça m'intéresse pas beaucoup. Et là,
bon,
je
ça
trouve
c'est réglé.
Une claque aussi.
Au passage.
Ouais. Et c'est intéressant parce que Picasso a quand même eu, après sa mort, il y a eu quand même un moment un peu de petit purgatoire dans le champ de l'art contemporain. Il n'était pas très convoqué, sinon par certaines personnes. Moi, je le dis souvent qu'il a fallu oublier un peu Picasso, hein, comme à d'autres siècles, il a fallu oublier Ronsard parce que ça pesait sur tout le siècle. Donc, il a fallu oublier Picasso. Et aujourd'hui, on voit bien que les choses aidant, eh bien, on peut le retrouver, le re-regarder avec beaucoup plus d'aisance, sans être autant désespéré que Modigliani ou Barcello.
Corinne Rondeau, encore quelques mots sur cette exposition Picasso Sculpture.
Alors, comme il donne des gifles aux autres artistes, on a envie de dire qu'effectivement, il y a ceux qui inventent et ceux qui inventent moins, on va dire. Mais, alors, je peux partager un certain nombre de points de vue que vous avez évoqués sur les deux artistes précédemment. Mais on peut aussi parler de en quoi un grand artiste comme Picasso, parce que on est, là, c'est, la chose est
indéniable.
Indéniable, c'est que Picasso, vous ne pouvez rien dire qu'il soit, je veux dire, une dévaluation quelconque. Je veux dire, il vous en met tout le temps dans la tronche. Hein. Et on peut aussi dire que finalement, il y a quelque chose qu'on pourrait prendre au sens le plus liminaire de l'histoire de l'art. Quand on veut faire de l'histoire de l'art, quand on veut être quand même un historien de l'art, c'est quoi? Comme le disait Daniel Arras, c'est voir et revoir. On ne peut pas voir, on ne peut que revoir. Et cette exposition, mais aussi le travail de Picasso, est une manière de montrer à quel point, parce qu'il y a de l'espace, et parce qu'il y a justement tout ce rapport d'écart, cette idée donc de la série de toutes les variations, cette manière de montrer à quel point peut-être le travail de l'historien ou même du critique, c'est trouver l'artiste qui vous donne de l'écart. C'est-à-dire une place par laquelle vous pouvez voir et revoir. C'est-à-dire quelque chose qui ne vient pas s'épuiser. C'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années où on fait ce travail, il y a des artistes qui nous épuisent, auxquels on a attribué un certain nombre de bons points, on va dire. On était bien avec eux, on a partagé. Et puis, il y a un épuisement. Et alors, il y a un épuisement, bon, voilà, qui est toujours valide. Mais en tout cas, chez Picasso, c'est ça qui est bien. C'est, il vous appartient de décider que voir, c'est d'abord voir dans un écart. Et là, pour le coup, je trouve que cette exposition, et je dois dire que les deux commissaires, je les salue à nouveau, parce que je trouve qu'ils sont à cet endroit juste, à leur place de commissaire, et en même temps, au service d'un artiste qui nous donne à voir, puisque vous savez que Picasso, très tôt, hein, a signé tous ses dessins, tous ses tableaux, avec le jour, le mois, l'année, pour dire, je voudrais qu'on fasse justement dans la chronologie, et on voit ce qui est fait, et peut-être qu'ils comprendront ce que moi-même, je n'ai pas compris totalement, ce qui est une manière de dire, bon, il y a de la place aussi encore pour tout le monde. Et c'est aussi de dire, regardez, c'est toujours une pensée en mouvement. Et la sculpture qui est montrée dans cette exposition, c'est aussi une sculpture en mouvement. C'est que toute la sculpture et toute la pensée chez Picasso, dans cet acte créateur, est un mouvement. Donc je crois que là où il y a les grands artistes, il y a toujours du mouvement.
Picasso Sculpture au Musée National Picasso à Paris jusqu'au 28 août, ce qui est une bonne idée. Ça laisse le temps à beaucoup de monde d'aller voir cette exposition, dont les commissaires sont, je le rappelle encore une fois, Virginie Perdrizo et Cécile Godefroy. Et puis le catalogue de l'exposition, vous avez cité quelques très belles signatures qui y figurent, coéditées par le Musée Picasso, Beaux-Arts Books et les éditions Somogy.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de l'exposition d'Araki Nobuyoshi au musée Guimet à Paris. Avant cela, on retrouvera l'invité de la dispute, la plasticienne Orlan. On évoquera aussi plus rapidement l'exposition Iris van Dongen à la galerie Bugada-Carniel et autoportrait de Rembrandt au selfie au musée des Beaux-Arts de Lyon. Un selfie avec Antoine Guillot. Bon, peut-être, mais après la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Qui a laissé l'auto au de Théo dans le garage, demande dans un titre très Libération Lorraine Rossignol, c'est dans Télérama, lancé un avis de recherche. C'est en effet la surprenante méthode utilisée par le musée Unterlinden de Colmar dans l'espoir de retrouver sept œuvres d'Autodix réalisées entre avril 1945 et février 1946. Le peintre allemand était alors prisonnier de guerre dans le camp de Logelbach, mais avait pu continuer à peindre grâce à la protection d'un lieutenant français amateur d'art. Les avis de recherche sont courants en Allemagne où tant d'œuvres ont disparu sous le Troisième Reich, explique la conservatrice en chef Frédérique Göring-Ergot. C'est même souvent un réflexe de la part des musées. En France, ce genre d'initiative est inédit, mais la conservatrice qui vient de publier un appel sur le site internet et le Facebook de son musée n'a pas hésité. Seulement un tiers des œuvres produites par Autodix pendant sa période de Colmar ont été retrouvées. Je suis sûr que les autres ne sont pas loin, dans les familles, les greniers. Autodix a pu s'en défaire contre un morceau de pain, du tabac, sans que les gens aient conscience de leur valeur. Avis donc à la population, d'autant qu'on en trouve des chefs-d'œuvre dans les greniers. L'histoire de l'art fourmille de ces histoires incroyables, rappelle Yves Jéglé dans Le Parisien. Début 2012, un brocanteur auvergnat resté anonyme a réalisé une vente comme il n'en aurait jamais rêvé. Le Louvre a acheté son Christ de pitié de Jean Malouel, peint en 1400 pour 7,8 millions d'euros et dire que le brocanteur n'avait acheté ce tableau abîmé et enfoui dans un presbytère que pour son cadre au curé du village pour une poignée d'euros. Un collectionneur hollandais qui croyait avoir acquis une peinture d'un petit maître de son pays a découvert ces dernières années qu'il s'agissait en fait d'un Rembrandt. En 2012, sur un marché aux puces de Virginie, on en avait parlé ici, une famille achète un lot de babioles. Il contient paysages, bord de Seine, de Renoir. Ce tableau, disparu depuis des lustres, se révèle avoir été volé en 1951 au musée de Baltimore qui le récupère. En 2002, enfin, en rangeant ses sous-sols, des employés de l'université de Yale aux États-Unis découvrent une peinture endommagée. Après 8 ans d'expertise, la toile oubliée se révèle être l'éducation de la Vierge de Velázquez, offerte à l'université en 1925. Et puis, il y a ce chef-d'œuvre inconnu, ou presque, sorti d'une très longue hibernation en 2014 dans une grande et vieille maison de famille de la région toulousaine. Ses occupants, qui veulent rester anonymes, monte dans l'un des greniers désertés à cause d'une fuite d'eau. Il découvre une peinture classique, flamboyante, comme neuve. Il pourrait s'agir d'une œuvre du Caravage. Le 12 avril, rapporte en effet Frédéric Roussel dans Libération, le cabinet d'expertise en tableaux Éric Turquin a organisé une conférence de presse avec cette intitulée appétissant « Découverte d'un chef-d'œuvre du Caravage dans un grenier français ». Tenu de ne pas la montrer pendant 2 ans, le temps de l'expertiser, Éric Turquin présentait pour la première fois publiquement cette huile sur toile figurant une scène biblique, Judith décapitant Holoferne, ce général assyrien de Nabuchodonosor qui assiégeait la ville de Béthulie. Selon l'expert, elle a été réalisée entre 1600 et 1610 de la main du Caravage et vaudrait 120 millions d'euros. Selon Nicolas Spinoza, ancien directeur du musée Capodimonte de Naples, il s'agit d'un véritable original, mais pas pour Mina Gregori, une autre spécialiste du peintre lombard cité par le quotidien de l'art. L'attribution du tableau, explique Philippe Dagen et Emmanuel Jardonnet dans Le Monde, est étayée par une copie d'époque attribuée à Louis Finson, contemporain du Caravage, argumente le cabinet. Les deux toiles sont en effet de composition identique. Celle qui était connue, propriété de la Banca Intesa San Paolo, est exposée à Naples, au palais de Zévalos, et un original qui aurait été du Caravage apparaissait en 1617 dans le testament de ce peintre flamand avant de disparaître, souligne le communiqué. Louis Finson, né à Bruges et mort sans doute à Amsterdam, a voyagé en Italie entre 1600 et 1610. Parvenu à Naples en 1604, il y est sensible à l'influence du Caravage dont le rayonnement est alors intense, mais Finson est à la fois peintre caravagesque et marchand de tableaux de son modèle. Comme son associé Abraham Vinck, il fait commerce de tableaux du Caravage dont il fut proche, lit-on dans le catalogue de l'exposition « L'âge d'or de la peinture à Naples » présentée au musée Fabre de Montpellier en 2015. Si cette double activité de peintre et de marchand ne doit pas surprendre, elle suggère qu'étant donné la gloire du Caravage, lui attribuer la paternité d'une œuvre était le moyen le plus sûr de trouver acquéreur, ce qui reste encore le cas. Comme le rappelle Nathalie Aix dans le Journal des Arts, régulièrement, des toiles de Caravage ressurgissent sur le marché ou à l'occasion de restaurations ou d'expositions. En 2006, ainsi, Sotheby's avait vendu pour 42 000 livres une œuvre intitulée « Les Tricheurs », expertisée comme une copie d'après Caravage et datée de la fin du XVIIe siècle. En 2013, l'adjudicataire affirmait que le tableau était de la main du Caravage et l'estimait à 10 millions de dollars. Loin cependant des 120 millions d'euros de cette Judith, le corpus des œuvres du Caravage est estimé à environ 50-60 numéros. Rembrandt, dont deux toiles ont été achetées pour 160 millions d'euros, en compte 350 à 400 dans son catalogue, estime Eric Turquin, pour expliquer le coût faramineux du tableau, comme le rapporte encore le Journal des Arts, qui constate que pour l'instant, les propriétaires de l'œuvre qui souhaitent la vendre n'ont pas reçu d'offre d'institution française, bien qu'elle ait été classée trésor national par l'État. Les conservateurs du Louvre pourront-ils l'offrir à leurs visiteurs, s'inquiète le Parisien. Ils ont récemment déboursé 80 millions d'euros pour ces deux Rembrandt, en partenariat avec la Hollande qui a versé l'autre moitié de la somme, déjà un record pour le musée. La fuite d'eau dans un grenier a déclenché un miracle, un séisme et un casse-tête pour le plus grand musée du monde.
Moi, j'ai trouvé un Vermeer dans la salle de bain. Bon, j'ai pas de cave, ni de garage, ni de grenier, donc... Bon, il faudrait que je trouve les maisons qui vont avec. Vous êtes près de Toulouse, Aurélie Rondeau, non ?
Ben justement.
Justement, vous aussi, vous avez trouvé quelque chose. Non, mais on découvre, on en redécouvre. Ça va être expert contre expert, Jean-Max Collard.
Oui, c'est une évidence, t'as dit, mais c'est vrai que voilà, que l'histoire de l'art est une science exacte qui se nourrit d'accidents, d'oubli, de pertes, de résurgences.
D'attribution, réattribution.
Voilà, mais les accidents sont nombreux, oui. Et c'est évidemment assez intéressant.
Oui, Corinne Rondeau, pas de commentaire particulier. Ben, c'est vrai que par contre, pour trouver l'argent pour le Louvre...
Mais on est sûr, vraiment, c'est un Caravage.
Ben non, justement, c'est bien ce qu'on disait. Expert contre expert. Oui, non, oui, non.
Je pense que ça va durer.
Ça va durer. Bon, ben, tant que ça dure. On parlera d'autres choses ici, notamment d'exposition. Alors, est-ce que vous avez vraiment vu des Rembrandt au Musée des Beaux-Arts de Lyon? Vous êtes sûr, ouais. Corinne Rondeau?
Écoutez, j'ai gratté. Et... J'en ai un bout dans ma poche.
Ben, c'est une bonne idée. Ouais, ils sont tout petits, hein, qui tiennent dans les poches.
Ils sont tout petits, oui. Alors, je suis allée car le mot selfie m'horripile, ben donc oui. Je me suis dit quand même, ce plus beau musée de France, qui est un des plus beaux musées des Beaux-Arts de France, que j'aime beaucoup particulièrement, c'est une exposition qui est en collaboration avec deux autres institutions européennes, hein, à Karlsruhe et à Édimbourg, les National Gallery d'Édimbourg, de Stockholm, enfin d'Écosse, et puis le Staatliche
Vous êtes aussi doué
Kunsthalle, Karlsruhe. Alors, oui, alors,
de l'autre, je dois dire que de Rembrandt au selfie, hein,
d'habitude, c'est le titre. Vous savez, on a le privilège de voir les expositions sans les visiteurs, ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Et donc, c'est très intéressant d'abord parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est très fréquenté. Et par ailleurs, ce cheminement qui commence avec la peinture, on va dire époque Rembrandt, hein, qui va jusqu'à un dispositif numérique interactif pour prendre sa tête en photographie. Évidemment, il y a la dernière salle qui se veut interactive, d'où le selfie, d'où aussi le plus médiocre des artistes, selon moi, Ai Weiwei. Mais peu importe, ils ont raison, puisqu'il fait partie
moi,
de...
Moi, je ne qualifie pas d'artiste.
Oui,
je vais un peu plus loin que vous.
Ah, mais écoutez, il y a encore des statues quand même qui restent. Alors... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, cette exposition n'est pas prise par-dessus la jambe, à savoir, il y a très très belles œuvres, justement, qui sont de l'ordre de l'autoportrait. Qu'est-ce que c'est que l'autoportrait? Mais pas au sens de la lecture historique. Donc, vous avez des croisements qui se font du 16e, 17e, jusqu'effectivement, jusqu'à notre époque. Les premières salles sont faites avec des vrais portraits de peintres qui vous regardent. Et on voit bien que l'intérêt de tous les spectateurs est de regarder qu'on vous regarde. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une attente, il y a même beaucoup, je dirais, de rétention des spectateurs en train de regarder avec beaucoup d'attention ces regards qui vous regardent, qui ont une étrangeté. D'ailleurs, le premier tableau que l'on voit qui est aussi l'affiche, c'est celui de Pierre Révol, c'est celui de Louis Jeanmot. Et c'est un portrait qui a une sorte d'étrangeté parce que le visage, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme, mais c'est quand même un autoportrait. Et puis, il tient un pinceau à la main comme une pique. On pourrait croire qu'il va vous le lever, il va vous le jeter dans l'œil pour dire « je suis en train de te regarder, c'est moi que tu fixes ». Alors évidemment, dans tout ce florilège d'autoportraits, vous avez les états d'âme, vous avez la manière de peindre, de se représenter, mais aussi de se représenter à travers d'autres formes qui sont les vanités, dont on peut voir des reflets dans certains flacons, hein, puisqu'il y a des vanités, il y a des tableaux des natures mortes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il démontre finalement que l'autoportrait va jusqu'à la mise en scène du regard du peintre dans la peinture. Et il y a un jeu qui n'est pas simplement celui du miroir. C'est pas le peintre simplement qui se regarde. C'est aussi, en fait, le regard qui s'expose en train de chercher son modèle quand il n'y a plus de modèle. Et que le spectateur peut devenir, justement, je dirais, la preuve ou le témoignage de ce regard qui se cherche, même en tant que peintre. Et donc, il y a une évolution dans l'exposition, puisqu'en fait, lorsque nous arrivons au premier étage, après avoir vu certaines salles qui consistent à montrer le regard de l'artiste, puis ensuite l'artiste un homme du monde, puis dans l'atelier, puis en scène familiale, puis dans des jeux de rôle et de mise en scène où sont les vanités. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un rapport. Et comme nous avons des gravures de Rembrandt qui, peu à peu, échelonnent les premières salles, en tout cas, on voit qu'il y a l'idée de l'éphémère, bien sûr, puisqu'il y a des vanités. On voit qu'il y a la durée, puisque Rembrandt revient régulièrement, et qu'il y a un rapport temporel qui va d'un coup se modifier. Et il va se modifier notamment avec le regard des spectateurs, puisque lorsqu'on arrive dans les parties modernes, où vous avez du Warhol, vous avez du Sarah Lucas, vous avez donc des artistes encore en train de se prendre en autoportrait, du Cindy Sherman, du Abramovich, mais aussi de Ulrich Rosenbach. C'est une vidéo où, en fait, il y a un double miroir où elle est en train de tirer des flèches dans le visage d'une vierge, et c'est beau par transparence. J'ignorais complètement cette vidéo. Vous avez Yann Fabre et vous avez des photographies, bien sûr, de Ai Weiwei. Mais là, pour le coup, les spectateurs ne regardent plus. Ils n'ont aucun intérêt pour ce type de forme. Et on a l'impression qu'effectivement, là où ça les regardait, ça ne les regarde plus. Alors, c'était très intéressant. Et là où ça les regarde à nouveau, c'est là où ils se regardent eux-mêmes dans cette salle interactive ou d'ailleurs même dans une autre salle médiatique. On leur demande de faire un dessin d'autoportrait. Bon, là, je laisse le musée avec ses affaires de médiation qui sont un peu agaçantes. Mais en même temps, il y a une belle circulation et il pourrait y avoir une sorte de réflexion. Bon, le catalogue porte un certain nombre d'éléments, bien sûr, mais d'ouvrir effectivement ce que représente le selfie aujourd'hui, si on accepte d'enlever la dimension purement narcissique, mais par contre, évidemment, de renvoyer à la question des médias et des médiums, qu'une peinture c'est dans la durée, qu'une photographie est plus immédiate, et que le numérique c'est une circulation des flux. Et donc à un moment donné, on voit bien qu'on passe du registre de la durée ou de l'éphémère, c'est-à-dire la vanité qui est une manière de la pensée de sa propre mort, jusqu'au selfie, qui est une manière de faire disparaître sa propre mort, mais qui est aussi l'immédiateté, et qui est aussi l'idée de communiquer et de flatter le médium du réseau social. Donc là, je trouve que l'exposition est un joli choix de réflexion sur ce que c'est que de regarder, d'être regardé, peut-être d'être vu, mais aussi de se regarder.
Autoportrait de Rembrandt au selfie, ça nous a l'air bien riche tout ça, c'est jusqu'au 26 juin au musée des Beaux-Arts de Lyon. Jusqu'au 28 mai à la galerie Bugada et Carniel, on peut voir une exposition d'Iris van Dongen, Jean-Max Collard.
Oui, donc c'est un choix que je recommande parmi les expositions en galerie actuellement. Il s'avère que moi j'aime... J'ai un goût pour la peinture de d'Iris van Nongen, enfin peinture, dessin en même temps, c'est quelque chose de très beau. Iris van Nongen est une artiste, comme on dit, middle career, qui vit à Berlin, qui a une quarantaine d'années, un peu moins, et on associe souvent au milieu de la mode, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça, et c'est bien mieux que ça, parce que c'est une œuvre qui est entre la mode et des fonds très anciens de peinture. Et donc ce qu'elle montre ici, c'est une série d'héroïnes un peu sombres, de chasseresses, qui sont à la fois dans des robes très stylisées, faites de motifs décoratifs, et puis tout l'arrière-fond de ces figures féminines est un fond justement qui décoratif, qui vient soit de la peinture orientale, soit du symbolisme. On pense aussi à Klimt. Enfin, il y a un traitement de la couleur or qui est très très belle. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très beau, qui est à la fois mélancolique et très contemporain, qui relève à la fois de temps ancien, mais peut-être aussi de choses très très fugaces, très éphémères, que ce soit la mode ou peut-être même aussi des héroïnes un peu comme prêtes pour des jeux vidéo. Et ça me fait penser à une autre série de peintures que j'avais vue à Berlin, de Martin Eder, qui lui a peint récemment des figures de jeunes gens en tenue un peu gothique, et façon vraiment, là, cette fois, Game of Thrones. Et je trouve que ce serait les mettre ensemble, ça ferait vraiment une exposition formidable. Vous savez, c'est normal, on fait des expositions mentales, on fait tous des associations entre les œuvres. Et donc voilà, je recommande vivement d'aller faire un petit saut dans cette série de peintures d'Iris van Nongen.
C'est à la galerie Bugada et Carniel à Paris jusqu'au 28 mai. Dans quelques minutes, nous parlerons d'Araki au musée Guimet. Avant cela, on va retrouver l'invité de la dispute, la plasticienne Orlan, dont on peut retrouver la riche actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous?
Orlan, quand il s'agit de parler d'art plastique, il faut regarder la newsletter d'Orlan et voir que vous avez des expositions mais innombrables dans le monde entier. Mais bon, c'est quand même en Normandie, j'ai failli dire en Basse-Normandie, on peut voir des choses aussi très, très belles et très fortes. Comment vous faites, vous, dans votre participation aux expositions? Vous êtes demandé partout.
C'est ingérable, mais je le gère. J'y arrive. En fait, je fais face à un certain nombre de choses. En tout cas, bon, je dis non pour un certain nombre de choses. C'est très, très difficile. Il faudrait vraiment être une artiste très prise dans le marché avec beaucoup, beaucoup de zéros pour avoir beaucoup d'assistants. Et dans ce cas-là, on pourrait faire face à la situation d'une manière meilleure et ne pas être uniquement secrétaire à plein temps et représentante de commerce, ce qu'on m'a pas appris dans les écoles. Et donc, c'est très difficile, mais on y arrive. On crée dans les aéroports, dans les avions, dans les chambres d'hôtel. On essaye toujours, enfin moi j'essaye toujours de rester en éveil et de lire beaucoup pour que effectivement je puisse avoir des éléments pour de nouvelles œuvres. Voilà.
Ces voyages, ça vous permet aussi de quand même de découvrir les œuvres de vos contemporains ou des classiques. Est-ce que vous allez voir est-ce que vous allez au Louvre quand vous êtes à Paris? Est-ce que vous allez dans les musées dits d'art ancien? Est-ce que...
Il y a longtemps que je suis pas allé au Louvre, mais j'adore le Louvre et pourtant je devrais aller voir ma copine, la Victoire de Samothrace, que je trouve absolument extraordinaire, fantastique. C'est cette femme qui avance, quoi, qui marche, qui est là d'une présence extrêmement active avec tous ces drapés magnifiques qui sont au vent. Bon, ça m'arrive souvent d'aller dans les musées anciens. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime qu'il n'y ait pas de schisme, pas de rupture entre l'ancien et l'actuel. Donc moi, dans mes œuvres, en tout cas, le baroque m'a appris ça. Le baroque nous demande plus de choisir entre le bien ou le mal, mais nous met sur la voie du bien et du mal en même temps. Donc c'est la Sainte Thérèse qui jouit de la flèche de l'ange dans une extase extatique et érotique. Lacan en a beaucoup parlé. Et donc moi j'ai beaucoup d'œuvres qui sont basées sur le et. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres baroques, beaucoup de musées en Italie, beaucoup d'églises bien sûr. C'est grâce justement à cette tournée en Italie où je suis allé observer le baroque que mon œuvre s'est construite, quoi. J'ai vu par exemple l'effroi là au musée de la vie romantique. Donc voilà, mais je vais aussi voir du contemporain. Moi,
alors, qui vous intéresse parmi vos contemporains, Orland ?
Freud, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup ? La liste est vraiment longue ?
Ce qui m'intéresse, c'est absolument pas ce qui est décoratif. Je pense que nous avons déjà dans nos appartements les dentelles, les tapisseries, les rideaux et les meubles. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les artistes qui s'engagent et qui disent quelque chose par rapport à ce qui se passe actuellement, qui sont en phase avec ce qu'ils vivent, mais d'une manière bien sûr critique, distante. Pour le moment, par exemple, il y a un artiste que j'aime beaucoup, dont j'ai une pièce sur mon bureau, qui est Émeric Luisset, qui prend énormément de risques en allant sur toutes les zones de conflit, que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan, Pakistan, de partout, pour faire des œuvres. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu un artiste aussi investi dans son œuvre et en prenant autant de risques pour faire de l'art.
Et quel regard vous avez, quand il s'agit pour vous de faire des expositions rétrospectives, quel regard vous avez sur votre propre travail ? Est-ce que vous acquérez au fil des années de la distance, à mesure que les années s'éloignent de la production de telle ou telle œuvre ? Ou est-ce que vous regardez ça comme un chemin qui est le vôtre ?
Il y a beaucoup de distance, beaucoup de distance. Mais je suis souvent très étonné d'avoir fait tout ce que j'ai fait, quoi. J'en ai fait mais vraiment énormément. Mais c'est vrai que c'est toujours des choses qui sont déjà parues dans les monographies, etc. C'est vrai que toutes les fois une rétrospective, c'est ou en tout cas une exposition, je sais pas si rétrospective est le bon mot, mais monographique ou disons avec des éléments favoris du curateur ou de la curatrice, c'est toujours extrêmement passionnant. Parce que c'est une lecture quoi, du travail. Si on prend telle pièce plutôt qu'une autre, bon. Je vais avoir une autre rétrospective en Corée en juin au musée de Suncok. Je pourrais justement, comme j'aurais eu juste l'exposition au FRAC de Bassan-Mandy avant, voir la différence. Toute ma vie, je me suis coltiné, on pourrait dire, toutes les choses, tous les phénomènes de société qui m'ennuyaient, qui me posaient problème. Donc, je me suis attaqué au football. J'ai fait des pièces contre le harcèlement du football. Et j'ai fait des pièces par rapport à la chirurgie esthétique. Et aussi, c'est pas parce que mon boulot, c'est pas de faire de la chirurgie, c'est de faire de l'art et que je me posais des questions par rapport à ça. Et là, les jeux vidéo, c'est vraiment incroyable, quoi. Et tous les stéréotypes, en particulier du corps des femmes, sont mais tellement dits que on ne peut que s'étonner, quoi, que ça soit à ce point. Et aussi, pour moi, tuer n'est pas jouer. Et donc, j'ai fait un jeu vidéo où, effectivement, il ne s'agit pas de tuer, et où le personnage féminin, qui est comme une sculpture d'abord au départ, qui est ma sculpture Bain-Plaude, on pourrait dire, inspirée de ma sculpture Bain-Plaude, tout à coup s'humanise petit à petit dans le jeu, et s'humanise au fur et à mesure qu'elle reconstruit des œuvres d'art qui ont été détruites, qui ont été cassées. Et elle retrouve petit à petit son humanité. Donc, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place pour essayer d'être un petit peu à côté. Il y a d'autres artistes qui font des jeux vidéo et qui aussi essayent de faire des pas de côté, heureusement. Mais finalement, il y en a relativement peu.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en allant au musée Guimet pour y découvrir l'exposition consacrée à Araki Nobuyoshi, photographe, qui a créé une école en 74 dans son pays, qui expose dans le monde entier à partir du milieu des années 80, qui est célèbre notamment, c'est vrai, peut-être surtout parfois et un peu trop pour ses photos de bondage, issues de la tradition Kimbaku. L'exposition du musée Guimet, elle retrace 50 années de travaux en 400 photographies, ce qui est un ensemble imposant mais qui est une paille comparée aux dizaines de milliers de clichés pris par Araki. Eros et Thanatos sont bien sûr convoqués, ils y ont la part belle et on verra aussi combien le registre de l'intime se décline sur une large palette pour donner naissance aussi à plusieurs centaines d'albums, qui est la façon privilégiée par Araki pour montrer son travail. Et puis on verra aussi la dernière création, 2015, réalisée pour le musée sous le titre Tokyo Tombeau. Le commissariat d'exposition est signé Jérôme Neutre et Jérôme Guesquière. Araki, Guimet, Rondeau.
Pas mal.
Pas mal. Beau tiercé, non ?
Oui, bon, alors moi je ne suis pas très fan d'Araki, il faut le savoir.
Nous le savons maintenant.
Et par ailleurs, je trouve que l'exposition est assez bien faite, même si j'ai regretté qu'il n'y ait pas assez d'espace dans cette exposition. Donc je me réjouis quand même que le musée Guimet se mette un peu à une sorte d'actualité.
Bah ça, Sophie Macario est passée par là, ouais. La présidente qu'on avait reçue comme invitée il n'y a pas si longtemps. Elle a plein d'envie,
et ça,
elle les met
super,
en pratique,
vraiment.
Et c'est formidable pour ce musée qui est un très beau musée par ailleurs.
Ouais. Et donc je dois dire que moi j'ai été tout de même, moi pour un artiste que je n'aime pas, j'ai pas de goût, j'ai été très surprise parce que il y a quand même dans l'accrochage, après avoir vu ce grand mur de livres, où effectivement c'est sans doute l'artiste qui a publié le plus d'ouvrages photographiques, ça c'est assez saisissant, et puis ces grandes photographies qui ont gros cadrage serré, grosse couleurs, qui vous en met plein les yeux, donc voilà. Là, vous avez quand même des séries qui sont Le Voyage Sentimental, Le Voyage d'Hiver, qui sont de 70, dans les années 70, qui sont en fait le mariage de Araki avec sa muse, Yoko, et puis la mort de Yoko. Et en fait, on a un trajet narratif avec des photos qui sont là, avec une grande force, sans en manifester outre mesure l'atmosphère de chaque prise. Un instant, c'est vraiment le journal, on peut dire, Araki. Moi, j'ai été très séduite et très émue par ces séries-là. En fait, en plus, elles se suivent comme ça, donc on ne voit pas où elles se terminent, et elles commencent et elles se terminent. Et ça, c'est assez beau, je trouve. J'ai été séduite aussi, indépendamment des photos, là, si on lisait, les nus de Tokyo, où vous avez une photo de nu qui ne correspond pas à du Araki, noir et blanc, grand format, avec, ce sont des diptyques avec des photos de rues ou d'arbres. Ça, ce diptyque joue sur des formes analogiques, et je trouve que ça donnait, bon, ça casse pas les briques, mais je trouvais que ça avait un contrepoint grâce aux photographies de Bondage, pardon, vous l'avez dit tout à l'heure, de Kimbaku. Kimbaku, je sais pas comment il faut Kimbaku. Le dire, Kimbaku, et qui sont, bon, pour moi, c'est là où on le reconnaît, c'est là où ça m'énerve, quoi, parce que au bout d'un moment, une femme, on a vu Lady Gaga, elle s'est fait attachée par Araki, mais elle s'était faite aussi attachée par Bob Wilson, qu'on avait eu chez Tadeusz Ropak l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus. Donc, ça, ces trucs de cordage, moi, ça me fatigue, quoi. Vraiment, c'est bon, oui, ok, on est dans l'obsession. Bon. Mais en même temps, cette exposition, justement, elle ventile ça. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette exposition, c'est que d'un coup, et puis, c'est surtout, cette série, Théâtre d'amour, de 65, je crois qu'on l'a jamais vue, où là encore, c'est une sorte de journal, il y a une rencontre de Tokyo, une rencontre de la nuit, une rencontre du sexe, une rencontre des femmes, une rencontre de sa femme. Et j'ai trouvé que ces petits formats étaient super. Et la dernière pièce, Tokyo Tombo, que j'ai trouvée, alors s'il a un pied dans la tombe, parce qu'apparemment Araki va mal, je trouve que là, il a été superbe. Il y a même des photos qui reviennent du début. Sa femme, une des photos de sa femme qui est les plus belles, elle est légèrement de profil avec un coude. On voit à peine son visage et on voit son pull noir. C'est une très très belle photo. Elle est là et elle est plus là, comme elle était déjà dans les années 70. Et avec un grand Bouddha du musée Guimet. Enfin, c'est pas un Bouddha, c'est une autre sculpture, mais enfin, on voit un peu la stature que ça a. Et je trouve qu'il y a une belle circulation quand même entre ces séries narratives, du journal Araki, et puis tout ce qui est de l'ordre du... Voilà, du Eros et Thanatos, vous disiez, de la cordelette, du sexe féminin, de la fleur, du machin. Il y a vraiment une mélancolie. Non, mais il y a vraiment quelque chose. Ça égrène de la mélancolie. Et on commence par le cimetière et on finit par le cimetière. Et je trouvais que l'exposition, en fait, malgré que je n'aime pas Araki, ben, m'a donné un plaisir de voir des séries de photographies d'Araki.
Jean-Marc Scolar, avez-vous du goût, vous, préalablement à cette exposition pour Araki ?
Alors, pas démesurément, je dirais non plus. Et aussi parce que bon, c'est une œuvre qui a été très vue, très montrée. J'entends dire, le musée m'a dit que c'est la première rétrospective dans un musée en France. J'ai quand même l'impression qu'on l'a quand même déjà vue, et que même très vue, et que un peu aussi parfois sous tous ses angles. Et alors bon, si on connaît pas très bien l'œuvre d'Araki, bah c'est très bien, comme ça on fait un peu le parcours. Si on le connaît déjà un peu plus, moi je trouve que l'exposition rebrasse un peu trop les mêmes évidences. Et ça pose la question, voilà, de quel est vraiment l'apport d'une rétrospective comme celle-là. On s'attendait bien à la dimension compulsive, et donc on a évidemment un pêle-mêle, à un moment donné, de 100 polaroïdes jetés dans une boîte à miroir. On se souvient avoir vu des expos d'Araki, où vous aviez des centaines, même des milliers de polaroïdes du sol au plafond. Je ne sais plus d'ailleurs où c'était dans Paris, mais ça existait, je l'ai vu. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas trouvé ça d'une folle inventivité. Je trouve que quand on fait quand même maintenant, qu'on reprend maintenant une rétrospective comme celle d'Araki, eh bien, on pourrait peut-être au contraire rebrasser les genres, revoir un peu les catégories, ne pas forcément mettre les fleurs ensemble, les ciels ensemble, etc. Et d'ailleurs, comme l'a dit Corinne, c'est précisément ce que fait par moment Araki quand il fait ses Nudes Tokyo, où justement il juxtapose des séries qui appartiennent à des catégories différentes, ou dans le Tokyo Tombow. Moi, je trouve Tombow, c'est pas une pièce que je trouve absolument admirable, mais effectivement, il rebrasse aussi, il rejoue comme ça des photographies plus anciennes. Voilà, je trouve pas ça d'une inventivité folle, mais pourquoi pas. Cela dit, une fois, il m'a été donné d'assister à une session photo. C'était à Taïwan en 1997, dans une sorte d'espace autogéré, où Araki est arrivé. Il y avait tout un dîner qui était là. Et il y avait une jeune femme très, très, très jolie, qui était sans doute une jeune actrice du cinéma taïwanais. On sait que le cinéma taïwanais est un cinéma important. Et là, je dois dire que c'était un spectacle incroyable, parce que Araki a vraiment plaqué cette fille contre une sorte de mur. Il l'a moitié déshabillé, il lui arrachait ses vêtements en même temps qu'il faisait des photos, pendant que l'assistant d'Araki rembobinait des appareils.
Parce que c'est l'argentique, on dit qu'il a stocké suffisamment de pellicules d'avance pour aller jusqu'au bout de sa vie.
C'est-à-dire qu'il n'est pas passé encore au numérique.
Il la mitraillait
vraiment, mais sous tous les angles.
Pour charger.
Pendant que l'assistant remettait des pellicules dans les appareils photo, c'était un délire. Je peux vous dire, c'était vraiment une scène. Vraiment une scène où là, on comprend qu'il se joue des choses de l'ordre de la compulsivité, de l'ordre de l'éros, dans la session de photos, etc. C'était très, très impressionnant. Reste, c'était un très bon souvenir.
Bon, voilà, ce qui ne va pas beaucoup plus loin, mais c'est vrai que bon, il y a des dimensions auxquelles on peut être plus sensible. C'est vrai que la question de l'album, hein, la question du livre de photographie, c'est peut-être est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait les voir finalement, les photographies d'Araki, selon lui, la façon dont il a de les assembler.
Moi, je préférerais qu'on ait des salles avec des livres à feuilleter. Vraiment. Parce qu'il y a des murs où il y a trop d'expos. À part cette ligne où il y a le journal, vraiment, voyage d'hiver, voyage sentimental et théâtre d'amour. Après, vous avez des grands murs où tout s'entremêle. Et d'ailleurs, c'est 1979, 2011, 2012. Il met un paquet d'images. Donc, il associe. Je pense qu'il y a un fourre-tout. Et en même temps, il a le sens de ce fourre-tout. Et en même temps, je pense qu'on peut pas trop être inventif, même si Jean-Max a raison, on pourrait quand même un peu déplacer, décaler, réinventer quelque chose. Bon, on le verra après. Hein. Il était là pour l'accrochage, je pense que ça devait compter aussi.
Oui.
Et c'est vrai que il y a une manière peut-être de se rejouer quelque chose avec Araki, parce que je crois qu'il n'est pas très inventif au-delà de ce que vient de nous raconter. Hein. Et vive le récit de Jean-Max, de cette compulsivité, et d'ailleurs qu'il rejoue dans la photographie. Moi, j'ai été quand même séduite par la dernière section de Tokyo Tombow, parce qu'il y a évidemment beaucoup de mélancolie, ça se voit que c'est la fin, c'est quand même un enterrement, hein. Mais je trouve qu'il le fait avec beaucoup plus de finesse que les autres panneaux, où parfois il y avait des montagnes d'images dont on n'avait strictement rien à faire.
Jean-Max Crevard.
Ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être la dimension, effectivement, on l'a dit, la dimension journal, le côté roman photo, mais finalement, la dimension très cinématographique de certaines séries, et aussi de certaines photographies de bondage, qui sont quand même extrêmement, enfin de Kinbaku, qui sont extrêmement mises en scène, avec des jeux de cadrage, d'éclairage, etc. Et on voit bien l'influence aussi d'un passage par le cinéma, qui est quand même beaucoup plus constant que moi je ne l'avais, par exemple, imaginé. Et c'est vrai que quand on voit aussi bien la très belle série de Voyage Sentimental, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit aussi d'autres photographies là, on sent bien cette empreinte cinématographique, et c'est un point intéressant qu'on aurait pu aussi développer. C'est des genres de choses qu'on pourrait peut-être maintenant développer à propos d'Araki. La dimension, est-ce qu'il y a une dimension conceptuelle? Est-ce qu'il y a une dimension comme ça plus cinématographique? Des choses qui échappent peut-être un peu complètement à son regard, mais ce sera peut-être pour plus tard.
Oui, il faudra peut-être attendre qu'il ne soit plus là pour qu'il y ait une liberté peut-être d'accrochage différente aussi. Corinne, un dernier mot.
En tout cas, j'ai l'impression que dans la manière d'avoir fait l'exposition, il y a une volonté de dire après Yoko, après la mort de Yoko, c'est Eros et Thanatos qui se mettent, c'est un bouillonnement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est du sol au plafond, quoi, d'une certaine manière. Et ça, c'est assez judicieux, d'une certaine manière, parce que pour un spectateur qui ne connaîtrait pas Araki, on a quelque chose de la vie qui se joue d'Araki. Et pas simplement le type qui couche avec ses modèles, absolument, avant de faire du cordage, quoi. Et ça, puisqu'il il prétend hein, que tous les modèles sont passés dans son lit avant qu'il y ait des séquences photographiques, des séances photographiques de Kimbaku. Il faut rappeler aussi qu'il y a quand même quelques photographies japonaises du 19e dans l'exposition qui sont sorties du musée Guimet, qui sont absolument merveilleuses. On appelle ça des Yokohama Shashui. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça.
Toutes les langues ce soir.
Donc il y a des... Il y a des photos de fleurs, des hommes tatoués. D'ailleurs, il y a une très belle photographie d'Araki où il y a un homme à genoux tatoué de dos. On le voit de dos et il a une femme devant lui. Et c'est très beau parce que ce dos tatoué comme un voile sur cette femme, ça fait presque penser là encore à du cinéma, des fantômes du cinéma japonais. Cinéma chinois. C'est un cinéma.
Vous avez essayé. Bon.
Oui, oui.
Araki.
Qu'est-ce que j'ai essayé?
Non, mais de finir votre phrase et c'était beau, Corinne Rondeau. Araki, c'est au musée Guimet à Paris jusqu'au 5 septembre. Là encore, beaucoup de temps pour aller voir cette exposition. Bien, un catalogue très beau, hein, édité par Gallimard et le musée Guimet.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Antoine Guillot, un retour sur le jeu d'hier soir tout d'abord.
Ah, vous avez gagné des gros coffrets, Michel Onfray, Contre-histoire de la philosophie, volume 25, La résistance au nihilisme. Je vous avais demandé à quel philosophe Michel Onfray avait consacré une bande dessinée. C'était Nietzsche, dans Nietzsche, Secret, Liberté au Lombard en 2010.
Ce soir, nous faisons gagner des places de cinéma pour aller voir Le fils de Joseph, de Jane Green, dont nous avons débattu hier et qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle question.
Qui a bien pu peindre la version du sacrifice d'Isaac qu'on voit dans le film?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Corinne Rondeau, Jean-Max Collard, Antoine Guillot d'y avoir pris part avec moi. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions. Un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. La dispute est possible grâce à Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot, Flora Isidore et Virginie Le Duo qui la conçoivent et la préparent à mes côtés. La prise de son était assurée par Clotilde Thomas, la réalisation signée Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Christophe Comte et Joseph Ghost. À notre affiche, The Hope 6 Demolition Project de PJ Harvey, l'exposition Velvet Underground à la Philharmonie de Paris et puis Bitchin, Barras et Bonnie Prince Billy associés pour un disque ensemble. On retrouvera Antoine Guillot pour la revue de presse culturelle de la dispute, les choix de la plasticienne Orlan, invité de la dispute. Et puis il y aura un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15, hors champ par Laure Adler. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.